Ma vie en bio, le rendez-vous 100% bio de Fréquence Terre. Frédéric Benoît.
Aujourd'hui, la vie en bio, deuxième partie de notre entretien avec Joseph Chauffret. Nous allons parler de son jardin, un jardin de 150 mètres carrés qu'il a aménagé en permaculture. Nous avions commencé à voir ça la semaine dernière. Oui. Je retiens une autre partie dans votre livre, c'est celle des engrais verts, c'est-à-dire que vous coupez des plantes que vous laissez sur place, par exemple la bourrache, la capucine. Vous insistez aussi sur le paillage.
Oui, tout à fait. C'est le paillage a beaucoup d'avantages, hein, dans un potager. Déjà, c'est finalement une sorte de compostage de surface, j'ai envie de dire. Donc, la matière organique déposée au sol, en se décomposant, va enrichir le sol en éléments nutritifs et permettre aux végétaux de mieux se développer. Et par ailleurs, le paillage limite la pousse des mauvaises herbes. Le paillage limite l'évaporation de l'eau du sol. Donc finalement, les intérêts du paillage sont nombreux et mon sol, il est couvert quasiment toute l'année, sauf un petit peu en début de saison sur les parcelles que je cherche à réchauffer en tout début de printemps, sur lesquelles j'enlève le paillage.
Voilà. Alors après, on voit que vous avez fait une tourbière. J'ai été surpris. Pourquoi une tourbière? Comment ça marche, une tourbière?
Alors ça,
à quoi
c'est
ça
une expérimentation que j'ai voulu tester parce que mon sol sur Sotteville est assez sableux, donc ne retient pas l'eau du tout. Et pour implanter certains types de végétaux, et en particulier les végétaux qui aiment beaucoup l'eau, comme justement les petits fruits rouges type myrtille, canneberge, RL, ce genre de petits fruitiers-là, je voulais essayer de recréer finalement un milieu sensiblement identique à ce que ces végétaux affectionnent dans la nature, c'est-à-dire des tourbières, donc des milieux très gorgés en eau. Oui. Et j'ai créé cette tourbière en allant chercher donc dans la forêt des matières un petit peu acides, donc en particulier des épines de pin, des choses comme ça. J'ai mélangé tout ça avec du compost, j'ai créé une tourbière, donc en étanchéifiant le fond de la tourbière. Et finalement, ça fait un milieu qui tend à se gorger en eau.
Oui, c'est ça. Et donc, vous plantez directement dans cette tourbière?
Je plante directement dans cette tourbière.
Une chose que j'ai trouvé sympa, parce que je me suis dit finalement, pourquoi pas, c'est un récupérateur d'eau que vous avez fabriqué avec des palettes et une bâche en plastique. Mais alors, le résultat est quand même à la hauteur. C'est-à-dire qu'il rend service et puis c'est pas laid, hein.
Ben oui, je suis d'accord avec vous. J'ai cherché finalement à créer un récupérateur d'eau à la fois le plus esthétique possible et à la fois le moins cher possible. Et en l'occurrence, ça m'a coûté le prix du liner, puisque sinon, ce ne sont que 4 palettes Europe récupérées et assemblées avec quelques équerres métalliques. Je tiens à préciser quand même qu'il faut des équerres solides. Oui. Parce que la première conception avait lâché. Comme il est raccordé aux gouttières, il se remplit de manière régulière. Hein, donc, il est finalement assez rare que j'ai besoin d'utiliser l'eau du robinet pour arroser le potager.
D'accord. Alors, il y a aussi une aire de compostage. Et cette aire-là, vous l'avez divisée, si je me souviens bien, en 3 parties.
Oui, en 4 parties.
4 parties. Voilà. Expliquez-nous la structure que vous avez mise en place.
Ben, la structure, en fait, ce sont simplement des caisses en bois, hein, qui permettent de délimiter finalement l'état de compost. Et dans le bac numéro 1, finalement, c'est le bac d'apport de déchets frais. Donc, c'est toujours dans celui-ci qu'on apporte nos déchets de cuisine et les éventuels déchets du jardin à composter. Et ensuite, c'est une succession de bacs dans lesquels le tas numéro 1, dès qu'il commence à être plein, on le passe dans le bac numéro 2. Et ensuite, le bac numéro 2, on passe dans le bac numéro 3. Donc voilà, il y a une succession des retournements qui fait que le bac d'apport reste toujours le bac numéro 1. Et dans le bac numéro 4, on a le compost mûr, prêt à être utilisé au jardin.
Et tac, on décale tout d'une case
d'une case à chaque fois.
Tout est à ciel ouvert.
Tout est à ciel ouvert. Il m'arrive ponctuellement de couvrir le composteur dans deux situations, soit durant l'été quand vraiment il fait trop chaud et que je veux éviter que le compost ne se dessèche de trop, et à l'inverse, en plein hiver quand on a des grosses périodes de pluie pour éviter qu'il ne s'engorge trop en eau.
Alors on arrive à une partie que j'attendais avec impatience en lisant votre guide, parce que mon père, qui est jardinier depuis toujours, j'ai toujours connu dans le jardin, me parlait il y a encore peu de temps, il y a 15 jours, de permaculture, où il me disait « Oh, j'en ai marre de retourner la terre, je vais acheter une grelinette ». Et hop, le tour sera joué. Et j'ai vu qu'effectivement, la grelinette, elle existe chez vous. Alors est-ce que vous retournez la terre ou est-ce que vous vous servez de la grelinette au final ? Alors la
Alors, je
greninette,
n'ai.
expliquez-nous, c'est une espèce de grande bêche qui finalement on donne un coup, on aère le sol, mais on ne le retourne pas, c'est ça?
Oui, c'est exactement ça. C'est un outil qui fait 3, 4, 5 dents parfois, qui permet donc d'aérer, comme vous dites, le sol sans faire du dessus-dessous, on va dire. Et c'est par ailleurs un outil qui permet de brasser le sol sans se casser le dos, puisqu'on ne soulève plus la terre. Donc c'est quand même un outil assez génial. Effectivement, je n'utilise que la grelinette, je ne retourne plus jamais mon sol. C'est bien suffisant dans la majorité des situations, et on se rend vraiment compte que sans travail du sol et avec un petit peu de et dans la durée, le sol gagne en légèreté et les vers de terre se multiplient de manière assez impressionnante. Et voilà, laissons-les travailler à notre place, ils le font très bien.
Voilà, et quand on veut planter un rang de poireaux, comment on fait alors?
Eh bien là, pour le rang de poireaux, je ne touche même pas le sol. D'ailleurs, pour le rang de poireaux, je prends mon plantoir, je fais des trous, comme n'importe quel jardinier ferait, mais tout ça sur un sol qui n'a pas été retourné. Et finalement, on se rend compte que la majorité des racines des végétaux sont suffisamment puissantes pour aller dans un sol qui n'est pas complètement ameubli. Donc, ça marche très bien. Il n'y a que pour les légumes type carottes et panais, par exemple, où là, si vraiment le sol est dur, ça peut nécessiter un petit retournement pour que les racines se développent relativement correctement et plutôt bien droites. Voilà.
Bien, on va s'arrêter là pour cette deuxième chronique. On aurait pu en parler des heures, puisqu'en plus, vous entendre en parler, c'est un délice. Vous racontez bien votre jardin. On voit que vous y avez passé du temps. Moi, je conseille aux auditeurs d'aller acheter ce livre, parce que quand on a un petit jardin et qu'on ne sait pas trop comment le rentabiliser, l'aménager, on y trouve 1 000 idées. Je vous le rappelle, hein, dans la première partie de cette interview, nous avons dit qu'il y avait une mare, qu'il y avait une cabane de jardin, qu'il y Il y avait une serre, qu'il y avait un coin potager, il y a une tourbière, il y a des plantes qui grimpent le long des murs, et vous nous expliquez comment c'est intéressant de rentabiliser les espaces sur les murs aussi,
Tout à
etc.,
fait, tout
etc.,
à fait.
etc. Voilà, merci beaucoup, Joseph Chaffret.
Merci à vous.
Je rappelle le titre de votre ouvrage, Mon petit jardin en permaculture, durable, esthétique et productif. C'est publié aux éditions Terre Vivante, où vous allez pouvoir vous le procurer, terrevivante.org. Et sur le site de Fréquence Terre, j'ai laissé pour vous toutes les références utiles, comme les liens vers votre chaîne YouTube, par exemple, où nous
Oui, tout à
retrouverons
fait.
également vos conseils. Merci beaucoup.